Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Vous êtes toujours dans le best-of d'Estelle Midi, les meilleurs moments de l'émission, avec au programme de cette deuxième heure, faut-il interdire les portables au restaurant ? On parlera de couple. Doit-on avouer une infidélité ? Et puis enfin, l'État qui veut limiter notre consommation de viande, est-ce nécessaire ou ridicule ? La deuxième partie de ce best-of, c'est tout de suite. Tout de suite, l'idée du jour. Et cette idée, c'est celle du Bistrot, un restaurant du Center Park de Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne, qui offre désormais un dessert gratuit à tous les clients qui laisseraient leur téléphone à l'entrée de l'établissement. Une initiative qui séduit en plein off février, le mois de la déconnexion, c'est maintenant. Mais Charles, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, d'un dessert gratuit pour laisser nos smartphones ?
Eh bien, d'abord, le constat. En France, 6 utilisateurs sur 10 expliquent être complètement dépendants de leur smartphone, ne pas pouvoir s'en séparer, notamment le temps d'un repas. Et donc les initiatives pour se défaire un peu de nos téléphones se multiplient. Il y a ce restaurant du Barin à Roto qui depuis 2 ans interdit les téléphones, pas question de les poser près de son assiette, et ça marche très bien, les clients sont ravis. À l'étranger, là aussi beaucoup d'exemples. À Washington, les restaurants chics proposent, je cite, des espaces propices à la communauté, à la présence et à la déconnexion. Les téléphones des clients sont enfermés dans des étuis scellés. Il y a certains établissements où des panneaux à l'entrée annoncent aux clients qu'ils ont interdiction de sortir leur téléphone. À Londres, on a les restaurants, mais aussi des clubs, des soirées qui organisent donc des fêtes dans lesquelles les participants doivent laisser le téléphone à l'entrée. Des soirées qui s'organisent un peu partout en Europe désormais. C'est aussi la tendance dans les concerts. Madonna, Alicia Keys, Bob Dylan ont proposé lors de leur dernière tournée des shows où les téléphones portables étaient interdits. Et puis tiens, pour revenir dans les restaurants, en Italie, c'est un restaurateur de Vérone qui fait le buzz avec son offre. Une bouteille de vin offerte aux clients qui acceptent de laisser leur téléphone à l'entrée.
Ah mais ça c'est autre chose.
C'est mieux que le dessert. C'est un choix. La bouteille ou le dessert, qu'est-ce qui marchera
le
mieux pour
le fromage.
Éteindre son téléphone portable en échange d'un dessert gratuit. Bonne ou mauvaise idée, Jean-Philippe?
Ah bah, très bonne idée. En fait, c'est un repas pris en commun.
Vous, évidemment, dès que c'est gratuit.
Mais même sans cadeau. Un repas pris en commun, c'est pris en commun. Donc voilà, on se met en commun. On est heureux d'avoir les convives autour de la table, et ça doit être la règle. En fait, on est là pour passer un moment ensemble et pas avec l'extérieur. Sinon ça sert à rien d'être ensemble. C'est devenu une règle.
Qui décrète ça ? C'est vous qui décrétez qu'il n'y a pas le droit d'avoir des portables à table ?
En tout cas c'est devenu... Bah oui, parce que...
Mais on fait encore ce qu'on veut, non ?
Évidemment, on fait ce qu'on veut. Mais moi, je considère que prendre un repas ensemble, c'est le prendre ensemble pour être ensemble. C'est la règle chez moi. Mes enfants n'ont pas le droit à leur portable, et moi non plus, je ne prends pas mon portable à table. Et ça m'a choqué parce que ce week-end, j'avais des amis chez moi qui, eux, n'ont pas la même règle. Et ça a sonné, ils ont répondu. C'était pas du tout une urgence, mais moi je ne réponds pas quand je suis à table, sauf urgence. Mais il y a pas je suis pas chirurgien, je suis pas pompier, je peux attendre la fin du repas pour répondre aux personnes. Je trouve ça d'un égoïsme total d'avoir quelqu'un en ligne quand on est à table. On est en train de passer un moment convivial ensemble. Donc pour moi c'est clair, pas de portable. Et alors le problème c'est que maintenant, comme c'est notre encyclopédie, quand on parle d'un artiste, on dit mais en fait il est mort ou il est... hop, on ressort, on va voir, et là du coup ça y est, le portable fait son apparition. Et voilà, je vous ai entendu, mais est-ce qu'il est mort ou pas ? On continue à faire la recherche.
Alors, d'ailleurs, j'ai très envie de la faire.
Maintenant, je ne vais pas vous spoiler, mais ça y est, oui, ça y est.
Il y a fini.
Il faut manquer.
Depuis 2009 même.
On aura plus besoin de sortir le portable pour savoir si Sim est vivant ou pas. Grâce à Estelle Midi, maintenant vous le saurez. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Camille, mais lui, qu'on nous infantilise trop ? Alors maintenant, expliquer qu'il faut un dessert gratuit pour enlever notre portable.
Non, mais ça suffit d'interdire, en fait. Voilà, juste ça suffit. Voilà, moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'avoir mon téléphone au resto, j'ai mon téléphone au resto. Maintenant, quand on est avec du monde, il s'agit de l'élémentaire savoir-vivre que de ne pas poser son téléphone à table. Pas besoin de l'interdire pour le faire. Voilà. Enfin, je veux dire. Après, moi, j'ai toujours mon téléphone à portée de main parce qu'il y a des urgences qui peuvent. Voilà. J'ai besoin que ma mère puisse me joindre n'importe quand. Mon fils. Enfin, voilà.
Comment on faisait avant?
Et bah alors, comment, bah avant, bah on faisait
autrement. Et avant, il n'y avait pas de voiture, on était en carrosse. Bon, est-ce qu'on va revenir en carrosse déjà, franchement.
Mais on allait quand même au restaurant, même si on pouvait pas être joint.
Absolument, mais moi, je pose. Et puis, on pouvait moi, j'adore être au restaurant. J'adore aller au restaurant ou prendre un café toute seule. Voilà. Donc, bah ouais, j'aime bien, j'adore. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir mon téléphone à côté de moi. J'écoute la musique avec mon téléphone. J'ai envie.
Ah, vous écoutez la musique au restaurant, vous?
Avec des écouteurs. Bah oui, avec mes écouteurs.
Bon, si je crois que vous savez.
Elle balance du Patrick Fiori à fond dans le resto.
Non, mais vous savez, à plus de 50 ans, on a quand même beaucoup de personnes qui à la fois téléphone en haut-parleur, mettent la sonnerie très
mais
fort.
Mais non, mais je mets ça, pas de sonnerie. Train, j'ai tout le temps mon téléphone en silencieux. Si ça je réponds, j'ai parlé doucement. Enfin, je veux dire, mais ça, c'est des règles de politesse absolument élémentaires.
Mais pour un dessert gratuit.
Mais je n'ai pas besoin d'avoir un dessert gratuit. Bon, une bouteille de vin, je veux bien.
Avec modération.
Voilà, avec modération, évidemment. Mais enfin, ça suffit d'interdire. Ça suffit, en fait. Voilà.
Jérôme Lavrieux, est-ce que vous êtes séduit par ce genre d'initiative? Ou est-ce qu'à un moment, quand même, on peut se questionner sur notre société quand ce sont les restos qui sont obligés de faire appliquer le savoir-vivre, quoi?
Je trouve ça tellement affligeant. Affligeant. En fait, on est obligé que quelqu'un nous appâte avec un morceau de sucrerie, un petit sucre, pour dire comment il faut lever la pâte ou pas. Enfin, on n'est pas des clébards, quoi. On doit savoir se comporter comme il faut dans un restaurant. Franchement. On sait que c'est désagréable pour la personne qui est à côté. Mais en même temps, moi, mon téléphone, si je l'ai, en général, je le garde dans ma poche. Il y a un truc, c'est bizarre, hein, ça s'appelle le vibreur. Donc, tu sais, si quelqu'un va essayer de te joindre, si on t'appelle une fois, deux fois, tu dis, il y a peut-être un truc. Tu regardes discrètement. Mais tu prends pas ton téléphone en hurlant. Je t'entends pas, ça passe mal, je suis au fond du restaurant.
Ah, si, dans le train,
c'est des gens qui ont pas de savoir-vivre. Qui ont pas de savoir-vivre.
Bah, il y en a.
Et, bah oui, mais c'est pas parce que tu vas leur donner un sucre qui vont tout d'un coup devenir. En plus, si tu leur donnes une bouteille de pinard, à la fin du repas, t'es tranquille. Il y aura plus aucune règle qui va tenir. Donc, les mecs, ils vont être pochetronnés, mais sans téléphone. Ça sert à rien, mais franchement. Moi, je trouve ça tellement affligeant. Je comprends pourquoi ils le font. Je comprends pourquoi le restaurateur.
Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas.
Mais qu'on en arrive là.
Surtout en quoi après, ça les gêne, je veux dire. Franchement,
après, les couples. Enfin, avec ou sans téléphone, on va avoir la Saint-Valentin dans quelques jours. Le nombre de dizaines de couples qui vont au restaurant, qui se regardent même pas dans les yeux, qui se parlent même
parce
pas,
que c'est
etc.
Officiels.
Au moins, ben voilà.
Ils sont ensemble depuis trop longtemps.
Et ben au moins qu'ils regardent.
Tu ferais une contre Saint-Valentin avec que des couples infidèles.
Justement, qu'ils regardent leur portable comme ça, ils savent s'ils ont un date qui arrive ou pas.
Un dessert offert si voilà. Tu gardes
ça. Ça, ce sera notre sujet de 14h. Hein. D'ailleurs, faut-il avouer une infidélité? N'hésitez pas à nous appeler, évidemment. Des messages. Charles, est-ce qu'on est séduit par cette idée d'un dessert gratuit en échange d'un téléphone laissé au vestiaire?
Tiens, à l'instant, le témoignage de Ludivine sur les expériences sans portable. Elle nous dit, moi j'ai testé aux États-Unis un concert sans téléphone. Ça m'a fait très bizarre. Je regrette un peu de ne pas avoir pu prendre deux ou trois vidéos souvenirs. Mais sinon, je dois reconnaître que j'ai beaucoup mieux vécu l'expérience. Et donc, pour les restos, je suis assez d'accord aussi. Je pense qu'on vit une meilleure expérience si on range son téléphone au fond d'un sac.
Alors, pardon, excuse-moi, mais pour les concerts, alors là, par contre, je trouve ça mais affligeant de voir les gens avec leur téléphone. Ils ne vivent pas l'instant présent. Quoi. Enfin, je veux dire,
et surtout quand on est petit comme moi et qu'on est derrière un mec comme vous, Charles, qui fait 1m90 et qui en plus lève le bras, c'est fini.
Tu payes 200 balles pour aller voir un concert pour le regarder dans un tout petit écran. C'est comme le mec qui va sur le banc du Tour de France. Le mec qui va sur le banc.
Je suis ses réseaux sociaux et du coup, je vois. Bah, tous les concerts qu'il va avoir. Voilà. Et c'est quelques extraits de.
Et puis l'hiver, au coin de la cheminée, je les regarde.
Samedi soir, j'étais à un concert d'Orelsan avec mon fils. C'était le premier grand concert de sa vie à Nice, au Palais Nicaïa.
À votre fils, pas Orelsan.
Non, Orelsan, il avait déjà fait 2-3 petites scènes avant. Mais mon fils, oui, c'était la première fois. Et bah, j'étais ravi de faire quelques vidéos, d'une part, de lui, dans un concert, de se garder ce souvenir.
Mais ça, c'est
de
pas pareil. Mais d'aller filmer Orelsan, alors que vous êtes à 100 mètres de la scène. Mais pour faire quoi?
Bah, parce que lui, le lendemain, il était ravi de revoir certains trucs, etc.
Quelques moments. Mais t'es pas pendant 2 heures comme ça.
Bah, et dans 3 jours, vous supprimerez le truc. Parce qu'en fait, vous direz, bah, Orelsan, je peux le voir n'importe où.
Je plains toujours.
Oui, bah voilà.
Ça prend de la place dans le portable pour rien.
C'est comme les dessins d'enfants pour la fête des mères. Bon, bah, au début, on trouve ça mignon. ans. Et quand ils ont 18 ans, crois-moi, ils restent dans le grenier.
Dans ce cas-là, c'est au stade de foot. J'étais au Parc des Princes dimanche soir aussi pour PSGOM. Là, il y a des supporters qui passent quasiment une heure et demie à filmer le match avec leur téléphone.
Ça, c'est pour dire. Ça, c'est pour montrer sur les réseaux sociaux, notamment l'arrivée au parc, par exemple. Regardez, j'en suis.
Non, mais ça, pourquoi pas? Il y en a qui filment tout le match. J'ai envie de leur dire, mais chez toi, il y a la télé.
Et quand je vois ça, je plains tellement la personne qui va devoir regarder ça. Tiens, regarde, j'étais au match. Et quand on te montre des. On voit rien.
C'est les diapos du 21e siècle. Ça emmerde toute la famille.
C'est ça. Ah, mais c'était plus sympa, les diapos. Hein.
Est-ce qu'il faudrait, quand même, plus largement, là, on voit que c'est le off février, c'est le mois de la déconnexion. Là, on parle des restaurants, des concerts, mais quand même. Faire des lieux sans portable, sans pour autant donner un sucre, comme vous dites, Jérôme Lavrieux, mettre peut-être des brouilleurs au cinéma. Il n'y a rien de plus insupportable au ciné, même sans entendre les sonneries, mais de voir que le garçon devant toi, il est en train de jouer à Candy Crush pendant le film, parce qu'il doit avoir sa carte pâtée et qu'il va au cinéma finalement gratuitement. D'être dérangé en fait en permanence par les portables, ça part quand même d'une bonne intention de supprimer dans les endroits publics.
Moi, pendant des années, pour réserver dans mes gîtes, on me demandait s'il y avait du haut débit. Et maintenant, depuis un an, j'ai de plus en plus, quand les gens viennent en famille, ils me disent « Vous ne pouvez pas couper le Wi-Fi ?» Et on me le demande à le couper 2 heures, 3 heures, le soir et tout. Comme ça, les mômes, ils peuvent pas aller sur leurs jeux et ils viennent prendre les jeux de société, ils jouent aux jeux de société, ils parlent entre eux, ils se redécouvrent et à la fin, ils repartent. Ils sont vachement contents et personne me dit « Ah, ça marchait pas le Wi-Fi ». En fait, c'est le père ou la mère en douce qui sont venus me dire « Vous pouvez pas le couper, on dira que ça marche pas ».
Évidemment. Alors, nous avons une auditrice qui nous appelle, c'est Mirabelle, très joli prénom, qui nous appelle de Bron dans le Rhône. Elle est musicienne. Bonjour Mirabelle.
Bonjour Estelle.
Vous êtes où là Mirabelle ?
Bonjour.
Ah, pour le moment, je suis chez moi et j'étais en train de vous écouter, mais je vais bientôt partir.
D'accord. Vous allez au restaurant ?
Non, alors pas aujourd'hui. Mais.
Est-ce que vous utilisez, Mirabelle, votre téléphone au restaurant ?
Oui. Alors quand je suis au restaurant, toute seule, je précise.
Ouais.
Parce que quand on vit au solo, la vie ne s'arrête pas pour autant et on peut très bien aller au restaurant. Et précisément, écouter Estelle Midi, moi, c'est ce qui m'arrive. Voilà, discrètement, avec un petit écouteur dans l'oreille, juste sur une oreille, pour pouvoir entendre ce qui se passe autour de moi de l'autre oreille.
Ouais.
J'embête personne, je ne m'ennuie pas.
C'est vrai.
Et voilà, il y a plein de gens qui n'osent pas aller au restaurant parce qu'ils se trouvent mal tout seul, mais quand on écoute une émission ou de la musique, on ne se sent jamais tout seul.
Et attention, c'est une question qui vaut cher, Mirabelle. Est-ce que vous seriez prête à vous passer d'Estelle Midi en échange d'un dessert gratuit ?
Non.
Ah,
bravo.
Mais nous sommes son dessert.
Et une bouteille de vin, Mirabelle ?
Pas non plus.
Ouais,
pas
mais non, ça a hésité quand même.
Et une bouteille de Mirabelle.
Encore moins.
Oui, en tout cas, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on peut être au restaurant et avoir la compagnie en fait d'une émission de télé ou de la musique sans embêter personne.
Et par contre, je précise, si on est plusieurs, évidemment, mais c'est un réflexe chez nous, dans la famille, entre amis, on ne se sert pas de nos téléphones quand on est en bonne compagnie, quand on est à plusieurs. En effet, je suis d'accord avec Yaël, il faut arrêter de tout interdire.
Exactement.
Les injonctions. Après, c'est une question en effet de savoir-vivre.
Exactement. C'est vrai que si vous êtes entre amis et que vous mettez à écouter Estelle Midi, c'est un signe, pour les amis qui vous écoutent autour de vous que vous n'êtes pas passionné par leur conversation.
Je suis peut-être le plus jeune sur ce plateau. Et
peut-être.
Ça ne se voit pas.
Peut-être. Bon.
Ils le prennent toujours mal. Hein, c'est dingue. Moi, je le vois quand même quand je suis avec des bandes de copains. Dès qu'on est plus de 3-4, si on a un dans la conversation qui se sent pas concerné au resto, ça peut arriver qu'il sorte son téléphone.
Mais c'est très mal poli, Charles.
Je sais bien, mais je le vois de plus en plus, le côté, ça m'intéresse pas ce que vous êtes en train de raconter.
C'est horrible.
Je vais aller répondre à un message. Alors que ça se fait de plus en plus.
Nous, notre génération, on subit.
Mais c'est incroyable. En fait.
Je vous le dis, je le constate autour de moi.
On est même plus capable de faire un effort pendant 10 minutes, quoi.
Pas en face à face. Mais dès qu'on est un groupe de 5, 6 personnes, ça arrive qu'il y en ait un ou deux qui se mettent s'excluent un peu avec leur téléphone. C'est un réflexe de plus en plus, quotidien autour de moi. Mais
ça en dit beaucoup sur notre société et sur vos amis.
Je pars aussi, mais ça peut m'arriver d'être avec 4 copains. Et hop, je reçois un message d'Estelle, urgence, si on faisait ça, et je vais répondre dans la minute.
Ah, mais ça, c'est normal.
C'est Estelle, il faut répondre.
Mais ça n'a rien à voir, évidemment que tu me réponds.
Tiens, le témoignage de Victoire qui nous dit: je reviens d'Autriche, j'étais à l'Opéra de Vienne, interdiction de sortir son téléphone. Les trois quarts des gens l'ont quand même fait pour filmer certains passages, certains avec le flash même. Le problème est sociologique, on veut montrer aux autres ce qu'on vit avant même de l'avoir vécu nous-mêmes. Voilà ce qu'elle nous écrit. J'ai Thierry qui est à fond pour au restaurant. restaurant, au moins on peut discuter. Un dessert gratuit en plus, c'est toujours ça de gagné. Bref, apprenons à manger sans portable. Et j'ai Cédric qui dit, moi je vais déjà dans un établissement où on doit mettre nos téléphones dans la corbeille à l'entrée et ça se passe très bien, mais c'est un club libertin, ça a toujours été comme ça. Voilà ce que nous écrit Cédric.
De toute façon, il y a un moment où t'as plus de poche. Hein, donc voilà.
Déjà, interdit.
Même sur Libreur ou pas.
Dans un établissement, on l'avance.
Veux-tu mettre ton téléphone?
C'est vrai.
J'ai bien l'idée.
Alors, restaurant, faut-il y interdire les téléphones portables? Vous avez répondu non à 61%.
RMC,
les meilleurs moments d'Estelle Midi.
On poursuit Estelle Midi avec l'aveu du jour. Et cet aveu, c'est celui du biathlète norvégien Sturla Lagrid. Après sa médaille de bronze aux JO d'hiver, hier, en direct à la télé, il a fondu en larmes et a avoué qu'il avait trompé sa compagne. Un moment hallucinant, écoutez.
Il y a 6 mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La personne la plus belle et la plus gentille au monde. Et il y a 3 mois, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Je l'ai trompé. Et je lui ai avoué il y a 1 semaine. Ces derniers jours ont vraiment été les pires de ma vie.
Voilà, alors c'est quand même un moment totalement lunaire en plein Jeux Olympiques. Ouais. Jérôme Lavrieux est atterré. Mais c'est pas la première fois, en tout cas, Charles, qu'une personnalité avoue son infidélité.
Ah, les pages People sont remplies d'histoires d'infidélité qui se soldent souvent par des séparations. Tiens, l'un des derniers exemples en date, c'est Shakira qui s'est séparée du footballeur Gérard Piqué.
Ah oui.
Après avoir découvert son infidélité, autre couple star au cœur des rumeurs, Jay-Z et Beyoncé, le rappeur a fini par l'avouer dans le New York Times en 2019. Il a été infidèle. Il s'est excusé en chanson et depuis le couple est toujours ensemble. Oui, parmi les scandales célèbres, Hugh Grant arrêté en 1995 pour exhibition sexuelle dans une voiture avec une prostituée.
Ça c'est pas qu'une infidélité, si je peux me permettre.
Oui,
il y a beaucoup de motifs de grief.
L'addition est salée. Il était en couple depuis 8 ans avec Elizabeth Hurley. Bon, l'affaire n'a pas détruit le couple immédiatement, mais ils ont quand même fini par rompre 5 ans plus tard en 2000. En France, l'affaire d'infidélité la plus célèbre des dernières années, c'est évidemment François Hollande sur son scooter. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ont connu les États-Unis avec Bill Clinton. En 98, il avoue à la télé avoir eu une relation avec une stagiaire de la Maison Blanche. C'est l'affaire Monica Lewinsky, des aveux télévisés qui vont le faire remonter immédiatement dans les sondages à l'époque. Enfin, autre scandale, en 2010, le champion de golf Tiger Woods, qui fait face à la révélation d'une liste de 120 maîtresses avec qui il aurait entretenu des relations extra-conjugales.
Mais c'est pareil. Voilà.
Et suite à ces révélations, s'ensuit une conférence de presse restée célèbre. Écoutez.
Infidèle. J'ai eu des aventures. J'ai trompé. Ce que j'ai fait est inacceptable et je suis la seule personne à blâmer.
Des aveux qui n'ont pas empêché un divorce quelques mois plus tard pour Tiger Woods. Enfin, quelques chiffres qui peuvent peut-être vous rassurer. L'infidélité serait en baisse en France, selon le dernier sondage IFOP. 37% des femmes avouent avoir déjà été infidèles. C'était 26% en 2019. Ça a baissé de 11 points. Idem chez les hommes, même si les chiffres sont relativement nettement plus hauts chez les hommes. 36% d'infidèles, mais c'était 45% en 2019.
Et le nombre de menteurs, Charles, on est sur...
Par définition, il est insondable.
Exactement. Alors, faut-il avouer une infidélité lorsqu'on est en couple, Yaël Mélul?
Alors,
Est-ce que vous en avez déjà fait les frais?
Est-ce que j'en ai déjà fait les frais? Oui, j'en ai déjà fait les frais. Mais ça, c'est, si vous voulez, à partir du moment où on avoue une infidélité, il faut partir, en fait. Voilà.
Qui part? C'est celui qui est infidèle ou l'autre?
En fait, il faut celui qui est infidèle par définition, en fait, normalement. À partir du moment où, enfin, moi, je suis très, on va dire, très traditionnelle sur ces choses-là, très classique, on va dire. À partir du moment où on trompe, c'est que ça ne va pas dans le couple, voilà, par définition. Donc, si ça ne va pas et qu'en plus on trouve mieux, manifestement ailleurs, il faut quitter, en fait, il faut partir. C'est tout.
Oui.
Donc
il a fait une erreur.
C'est pas une erreur de parcours. C'est qu'à partir du moment où on ne trouve pas le bonheur chez son conjoint, compagnon, compagne ou que sais-je, et qu'on est obligé d'aller le trouver ailleurs, il faut avoir le courage de casser cette relation. Et, je veux dire, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre.
Et donc, le reste.
Il vous a pas ému le biathlète.
Non, absolument. Là.
En plus, je trouve ça, je trouve que c'est un égo trip. C'est dégueulasse en plus pour ses coéquipiers qui sont pas contents du tout, manifestement, de son équipe.
Oui.
Parce que, je veux dire, venir chialer.
Il a le droit d'être sensible.
C'est un acte de contrition.
C'est un acte hyper égoïste qui est vraiment pas sympa pour les gens de son équipe.
Ouais.
C'est pas bien ce qu'il a fait. Si en plus il a l'illusion, s'il croit que c'est comme ça qu'il va récupérer.
Ah, moi je pense qu'il va la récupérer.
Moi je crois pas du tout.
En tout cas,
je serais sa nana.
Fera un petit pari. Moi je parie que oui. Jérôme Lavrieux, on avoue pas. Je vous voyais atterré pendant l'interview de ce garçon.
Non, parce que je serais le dernier à lui jeter la pierre. Il m'est arrivé d'avouer à la télé quelque chose et. En état de grande fébrilité, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Non, moi je pars du principe que si on est en couple avec quelqu'un, il faut être amoureux pour l'être, selon moi. Et si la fidélité fait partie du contrat qu'on a ensemble, moral, ben si tu le romps, tu dois le dire pour expliquer pourquoi tu pars. Et moi, je suis pas du tout jaloux. C'est vraiment un sentiment. Ma compagne fait ce qu'elle veut, elle peut aller déjeuner avec qui elle veut, etc. Mais le jour où j'apprendrai une infidélité, pour moi, ça serait la fin immédiate de notre
Il n'y a pas de pardon pour vous, définitive
de notre relation et vice versa. Et vice versa, parce que sinon t'es passé dans autre chose. Si t'es dans un couple libre, c'est tout le monde se dit t'as le droit d'aller voir, j'ai le droit, etc. Ouais, il y a plus de gens qui le disent qu'ils le.
Il y en a souvent gens qui le libre que l'autre.
Oui. Voilà. Franchement,
c'est souvent bizarre.
Oui.
Mais non, parce que je suis pas jaloux, mais je pense que l'amour que j'ai pour ma compagne est assez exclusif en fait.
Jean-Philippe Doux, je reviens vers vous dans un instant. Je vous laisse bouillir dans votre coin, mais nous allons prendre Clément qui nous appelle de Roncq dans le Nord. Il est commercial. Bonjour Clément.
Oui, bonjour. Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Merci beaucoup Clément, vous vouliez nous raconter votre histoire, allez-y.
Ah ben moi mon histoire, moi je suis pas du tout d'accord avec Jérôme, ça dépend des âges, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend si on est marié. Moi il y a 26 ans bientôt, j'étais avec une copine, tout se passait bien, et cette copine m'a trompé, mais elle me l'a pas avoué directement, elle l'a avoué à mon meilleur ami, d'ailleurs qui est le parrain de ma fille.
D'accord.
Donc, mon ami a juste dit à cette copine, écoute, t'as 24 heures pour l'avouer à Clément. Sinon, c'est moi qui le dis. Moi, je pense qu'il faut l'avouer. Bon, après, moi, à 20 ans, elle me l'a avoué. Je dis, c'est terminé, je suis passé à autre chose.
D'accord.
Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je suis pas d'accord avec, avec Jérôme. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis marié, j'ai deux beaux enfants, tout va bien. J'espère pas qu'elle me trompe mon épouse, mais si elle m'avoue quelque chose comme ça, et ça dépend des circonstances. Je veux pas dire, allez, c'est fini, je passe à autre chose.
Parce que vous avez deux enfants aussi.
Oui, j'ai deux enfants, mais c'est, après, il y a une maturité. J'ai 46 ans maintenant, bientôt. Lorsque ma copine m'a trompé, j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, je réfléchis à autre chose. Je me dis, c'était dans quelle situation? Si c'est avec mon frère ou mon meilleur ami, là, c'est sûr que c'est fini.
Oui, là, ça complexifie un peu la chose,
Mais aujourd'hui, je vais réfléchir, mais c'était dans quelle situation? C'est une fois, on a perdu la tête, ou c'est quoi? C'est quoi la situation, en fait?
C'est ça. Il y a tromperie et tromperie, en fait. Il y a double vie et tromperie. C'est pas tout à fait pareil.
Ça dépend des situations. Aujourd'hui, je veux pas dire, je me barre et je pars. Il y a des enfants.
Lui donnez pas d'idée, quand même, Clément. Imaginez, elle nous écoute.
Non, j'espère pas.
Merci, j'espère Clément. Pas. Bonne Saint-Valentin à vous, Clément, qui a été trompé, mais qui est aujourd'hui heureux papa de deux enfants et en couple. Jean-Philippe Doux. Ça va, Jean-Philippe?
Ah oui? Non.
Quelque chose à confesser?
Non.
C'est le moment, Jean-Philippe.
Je n'ai jamais trompé. C'est, dans mon histoire personnelle, j'ai été témoin quand j'étais jeune de tromperie. Ça m'a un peu traumatisé depuis, non. Et en revanche, faut-il avouer une infidélité? C'est la question. Oui, il faut l'avouer, le plus rapidement possible. Et puis en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une infidélité, c'est pas la charge, elle est pas à 100% contre l'infidèle. Elle est, y a une part de responsabilité aussi chez l'autre, mais ça montre bien que ben voilà, si l'exclusivité, alors ça dépend, il y a des couples en effet qui disent non mais on fait un peu ce qu'on veut, mais si on est parti sur une base d'exclusivité et qu'il y en a un qui rompt ce pacte, bah ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Après ce biathlète norvégien là, qu'est-ce qu'on lui reproche finalement, c'est d'avoir privatisé un moment national. Il a son bonnet marqué Norvège, il est là en tant que sportif norvégien et il vient déverser son problème personnel. C'est ça qui est gênant en fait, je trouve.
Et d'ailleurs sa copine, enfin son ex-copine a réagi hier en disant que c'était un peu dur d'apprendre ça à la télé en direct et que c'était assez dur de pardonner. Voilà où on en est pour
voilà. Surtout qu'il n'est que médaille de bronze. Il aurait été médaille d'or.
Elle a dit s'il avait battu le record.
Ça n'a rien à voir. Non mais tous autour de ce plateau, il n'y en a pas un qui pardonne un écart. C'est-à-dire que non. Voilà, d'accord, il n'y a pas d'écart possible.
La confiance est rompue. Voilà.
Ah d'accord. Charles Magnin, il pardonne l'écart, lui.
Mais je pense qu'à 20-25 ans, j'aurais été plus intransigeant. Ouais. Je suis comme c'est Clément qui était en ligne avec nous et qui disait avec le temps.
Si t'as des enfants,
vie fait que.
Si je veux rester optimiste.
Tu restes pas parce que t'as des enfants.
Non, mais si t'as des enfants, t'as construit quelque chose et tout, et que si jamais ton mari a un écart un jour, voilà, j'ai n'importe quoi, t'as le séminaire de la boîte à 50 km, tout le monde dort, il y a la soirée, et tu tombes, t'es un peu dans un état second. C'est pas bien, bien sûr que c'est pas bien.
À ce moment-là, le dis pas.
Mais c'est la question justement. Est-ce qu'il faut le dire?
Je vais être très focus.
C'est une relation de confiance. On se dit non pas dans un couple.
Non. Je vais dire un truc. Moi, je préférerais à ce moment-là qu'elle ne me le dise pas.
Évidemment. Alors justement, nous avons une psychologue clinicienne, psychanalyste à Strasbourg, Marie-Prune Baudin, qu'on adore dans cette émission, et qui va nous donner la réponse à cette question épineuse. Bonjour Marie-Prune.
Bonjour à vous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, là, tout le monde nous écoute et tout le monde est suspendu à vos paroles. Marie-Prune Baudin, est-ce que quand on est infidèle, est-ce qu'on l'avoue ou pas?
Ça dépend. Ça dépend. Je crois que, quoi qu'il arrive, que ce soit dans le pacte de couple ou pas dans le pacte du couple, ça fait toujours mal à celui qui l'apprend. Donc, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, il faut toujours beaucoup réfléchir. L'infidélité, ça a à voir avec le pulsionnel. Et le dire ou ne pas dire, ça a à voir avec le rationnel. On peut avoir du respect et ne pas le dire par amour et par respect, et on peut par amour et par respect le dire. Mais ça dépend du type de l'adultère, ça dépend du comment, ça dépend de l'histoire du couple. Est-ce qu'on a trompé? Il y a des gens qui sont tellement en amour avec leur conjoint que la fusion qu'ils ont ensemble est tellement inquiétante qu'ils vont avoir besoin d'avoir des petits espaces ailleurs pour pouvoir rester dans la relation. C'est un peu étrange, mais ça arrive.
Vous appelez ça un petit espace, vous?
Oui.
Ok.
Mon petit espace.
Il y en a d'autres.
Chérie, j'ai eu un petit espace.
Il y en a d'autres qui sont pas bien dans leur couple. Et aller voir ailleurs, c'est aussi reprendre un peu des forces et peut-être aller interroger le couple et dire, on n'est pas obligé de dire je t'ai trompé, mais on peut dire je ne suis pas bien, je sens que je pourrais avoir envie d'une autre vie. Est-ce qu'on va essayer? Donc, il y a plein de façons d'en parler sans forcément en parler. Je crois qu'il faut beaucoup, beaucoup réfléchir à ce qu'on va dire après la décharge pulsionnelle. Et il n'y a pas de règle. Parfois, ça vaut de le dire. Et puis, les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus transparentes. Il faut aussi les respecter. Nous, les vieux, moi, je reste du côté des vieux, on a tendance à dire que, peut-être qu'on peut réfléchir avant de le dire, à quoi ça sert, etc. Eux, ils sont bien plus exigeants quant à la transparence de la relation.
C'est pour ça qu'ils se séparent plus, d'ailleurs.
Peut-être. Il faut peut-être aussi les écouter. Pourquoi cette exigence de transparence, cette immédiateté, cette transparence absolue qui rend le couple, c'est vrai, plus fragile. Mais aussi, on peut aussi les inviter à réfléchir à une forme aussi d'agressivité passive. Le dire, c'est aussi faire mal à l'autre. Et c'est peut-être aussi l'objectif. C'est peut-être aussi le faire bouger. Donc, j'ai envie de dire, le dire ou pas le dire, je ne fais pas, mais en tous les cas, beaucoup y réfléchir, ce que ça dit de soi, de sa trajectoire, de son rapport à ses parents, de la construction de sa sensualité, de son couple, des empilements d'histoires rationnelles. Il y a énormément de brins à la tresse de l'infidélité. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas une infidélité, il y a des infidélités.
Voilà. Merci beaucoup Marie-Prune Baudin. On a plein de témoignages. Ben restez avec nous. Tiens, plein de témoignages au 32-16. On a Franck qui nous appelle du Muy dans le Var. Il est hôtelier restaurateur. Bonjour Franck.
Oui, bonjour tout le monde.
Alors vous avez dû voir passer des couples légitimes et illégitimes, hein, Franck, dans votre restaurant.
Oh non, mais on est, il y a le secret professionnel. Mais
bien sûr. Voilà. Alors dites-nous tout.
C'est une situation. C'est pour ça que je vous ai appelé très très loquace. Et on est dans les Jeux Olympiques. Celle-ci, elle mérite la médaille d'or. En fait, oui. C'était magnifique. Alors c'était, en fait, c'est après le Covid, donc Saint-Valentin, donc à peu près 90 couverts, musique romantique live, et puis en plus on fait un petit jeu avec le ticket des vestiaires, on fait gagner par la suite un week-end romantique avec espace bien-être, tout ça, machin.
Super.
Tout se passe bien, et puis au milieu du repas, mon personnel vient me voir en disant il y a une table là. C'est un peu tendu quand même. Hein. Je dis, écoute, je vais observer ça. Et effectivement, je sens que c'est tendu, mais ça allait. Pas de gêne à la clientèle. Arrive le moment, donc fin du repas, bien sûr, tout le monde finit en même temps. Il y a la queue pour payer. Et puis effectivement, arrive la dame, c'est elle qui paye. Hein. Donc madame, donc mon épouse qui lui dit, écoute, félicitations, c'est eux qui gagnent. Tirage au sort, c'est eux qui gagnent le week-end romantique, machin. J'espère vous accueillir bientôt, ça va être sympa. Et elle dit, non. Non, il viendra avec sa pétasse.
Aïe,
attendez, c'est pas fini. Aïe. Donc du coup, ça jette un froid dans les rangs.
Oui.
Qui regarde. Moi, je pars dans le bureau derrière parce que je sens que j'ai bouffé derrière. Et puis donc, pourquoi si ça s'est mal passé, votre repas, tout ça. Non, monsieur a profité de la Saint-Valentin pour annoncer qu'il me quittait pour sa maîtresse.
Il y a quand même des meilleurs moments.
Je vois que ça commence à être dans ceux qui attendaient pour payer. Donc voilà, en fait ça jetait un peu froid, mais voilà, donc en fait il a profité de
la Saint-Valentin.
Romantique, de la Saint-Valentin.
Ouais.
Vraiment, on fait tout pour que ça soit romantique. Il y a des cœurs partout. La chanteuse romantique. Pour lui dire, bon, écoute, chérie, t'es sympa, mais je me casse.
Elle est restée jusqu'au bout du dîner, quand même.
Merci beaucoup, Franck, en tout cas, pour cette belle histoire. Merci, Franck, d'avoir été avec nous. Et bonne Saint-Valentin. Voilà, Franck, qui doit évidemment faire la Saint-Valentin dans son restaurant, malgré cette petite déconvenue. Après le Covid, on a plein de messages.
Geneviève qui nous dit il vaut mieux ne jamais avouer une infidélité pour protéger le conjoint. Avouer revient à chercher le pardon, à lui faire porter le fardeau. C'est ce que pense Geneviève. Gérard nous dit un jour j'ai fait une infidélité à Estelle en allant faire un tour sur une radio concurrente. Je regrette tous les jours, j'espère un jour être pardonné. Voilà ce que nous dit Gérard.
Je lui pardonne.
Voilà, il est revenu aussitôt.
C'était un petit écart, un petit espace. Il n'y a pas de problème.
Un petit espace est pardonné, Estelle.
Exactement.
C'est noté. Aurore qui nous dit, il y a l'infidélité de cœur, la plus grave à mon sens, quand on n'aime plus vraiment l'autre, et puis celle de corps, le coup d'un soir, comme on dit, ça peut arriver pour tester sa séduction, et pour moi c'est très différent, nous dit Aurore. Nico nous dit, moi j'ai été infidèle pendant 4 ans, alors qu'on était mariés depuis 20 ans. Et ben cette aventure, comme il la qualifie, de 4 ans, a quand même permis de relancer mon couple et de perdurer ensuite. Donc oui, je n'ai rien dit, et ça a tenu malgré cet espace, comme on
Madame
dit désormais, de 4 ans. Et puis Gilles nous dit que ma femme me trompe, ça serait dur à vivre, mais ce serait pire si elle votait et les filles. Voilà ce que pense Gilles.
Quel rapport
voilà l'échelle des valeurs de Gilles. Voilà, il a réfléchi à ce qui serait la pire trahison pour lui. On peut pas se pardonner. Il y a des choses impardonnables aux yeux de Gilles.
Voilà, écoutez. Alors, faut-il avouer une infidélité?
Non, mais ça a été serré jusqu'au bout. Non à 57%.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et tout de suite, on va poursuivre Estelle Midi avec la volonté du jour. Et c'est celle du gouvernement qui veut limiter notre consommation de viande et de charcuterie. Une directive publiée par les ministères de l'Agriculture, de la Transition écologique et de la Santé. Alors même que la consommation de viande a augmenté de 2,4% en 2024, notamment à cause du poulet. Pour quelle raison, Charles, l'État veut interférer dans nos repas?
Pour sauver la planète, Estelle. L'alimentation représente près d'un quart de l'empreinte carbone des Français, dont 61% issus de produits d'origine animale, donc essentiellement la viande et le lait. Dans le détail, c'est la production bovine qui représente 62% de nos émissions dues à la production animale. Suivent ensuite la production porcine à 14%, la production de volaille, c'est seulement 9% du total. Mais les négociations ont été particulièrement tendues autour de la formulation de cette stratégie nationale. Ça fait 2 ans que les différents lobbies s'écharpent sur le texte final qui préconise donc une limitation de la consommation de viande et de charcuterie et non une réduction. Il prône en revanche une réduction cette fois sur la consommation de viande importée. À l'inverse, le texte préconise une augmentation de notre consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits à coque, de céréales complètes, une consommation suffisante et limitée de poissons et de produits laitiers et donc une limitation de la consommation de viande.
Alors, l'État qui veut limiter notre consommation de viande, est-ce que c'est nécessaire ou ridicule, Baptiste Desmontiers ?
Je pense que c'est bien. C'est bien de... Moi, je veux pas interdire. C'est-à-dire, s'ils commencent à nous mettre des quotas, des lois, des trucs, non, il faut pas. En revanche, qu'il y ait de la sensibilisation et qu'il y ait une action du gouvernement pour essayer de nous faire prendre conscience que c'est plus possible, c'est bien. Et c'est même, en fait, réparer tout ce qu'ils ont laissé faire. Parce qu'on en parle assez peu, en fait. Mais vous savez que les lobbies, aujourd'hui, de l'agroalimentaire, que ce soit les lobbies du lait ou les lobbies de la viande, arrive jusque dans les écoles où nos gamins sont scolarisés et ça c'est totalement accepté par le gouvernement et les gouvernements respectifs. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait encore tous les lobbies du lait qui débarquaient dans les écoles en disant "Eh, bouffez du lait, c'est bien, prenez du lait." Non, c'est pas bon le lait, faut pas en prendre trop. La viande, c'est pareil, Interbev, la plus grande coopérative qui représente les intérêts de la filière bovine en France, sont arrivés mais pleine balle pendant des années à donner des kits, tu dois le savoir probablement avec dans les écoles des kits à destination des enseignants pour pour parler de manière positive de la viande. En fait, non, la viande, c'est bien, c'est pas mal, attention, hein. Mais trop, c'est pas bon. Ça coûte cher à la planète et ça coûte cher à la société. Mmh. Cancer colorectal, machin, etc. Donc, à un moment donné, ouais, c'est bien. Moi, je trouve qu'on mette un peu, que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Moi, je trouve ça ultra hypocrite de dire faut consommer moins de viande importée. Ben, interdisons l'importation de la viande. Plutôt que de, en fait, tu dis, faut manger moins de
poulet. Juste après signer le Mercosur.
Non, mais d'accord, ouais, voilà. Oui, mais d'accord. Mais en fait, tu dis, faut manger moins de poulet brésilien. Ben, dans ces cas-là, il faut interdire la, enfin, c'est quand même hallucinant. En fait, on t'explique qu'il y a de la viande qui va te donner des cancers et derrière, la viande, elle est autorisé, mais il y a quand même un truc qui va pas. Et dans le même temps, il y a 3 jours, il y a Emmanuel Macron qui soutenait la filière viticole au salon Wine Paris. Il y a un moment où, excusez-moi, mais je ne comprends plus. Benjamin Hamar, mais est-ce que l'État a quand même raison, de nous inciter à manger moins de viande, ou quand, comment, pourquoi, on sait pas très bien,
mais
enfin.
Non, mais sur ce que tu viens de dire, enfin, maintenant, faut arrêter d'écouter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il te dit un truc, et puis le lendemain, il va te dire l'inverse. Enfin, for sure. Donc, ça sert à rien, vraiment, d'écouter Emmanuel Macron. Mais, que l'État mène des campagnes de prévention, sur l'alimentation, c'est son rôle, bien sûr, sans passer dans l'oukase et l'interdiction, mais faire de la campagne sur l'alimentation, il est dans son rôle. Mais bien évidemment, ce que tu as dit est éminemment juste, c'est-à-dire pointer la viande d'importation, alors qu'on a signé tous les accords de libre-échange et que effectivement là-dessus, on a eu un discours laxiste. Enfin, le gouvernement a eu un discours laxiste. Ça n'a pas de sens. Mais alors, dans le détail, donc le gouvernement incite, mais en fait, il y a beaucoup de Français qui ont fait baisser leur consommation de viande de bœuf, par exemple.
Tout à fait.
Parce que là, les chiffres de Charles, c'est les chiffres globaux. Mais la viande de bœuf, la consommation diminue, je crois, de 1,2% parce qu'en fait, elle est trop chère. Quand on interroge les gens sur le motif, c'est non, maintenant c'est un produit de luxe, donc j'en consomme de temps en temps, et donc c'est contraint d'un point de vue budgétaire. C'est ça le truc. Alors, effectivement, derrière, quand on regarde les enquêtes d'opinion, les consommateurs expliquent ensuite les motifs qui suivent, c'est la question de la santé et la question environnementale. Donc les gens, autrement dit, sont des experts de leur quotidien et ils savent bien ce qu'ils font. Mais derrière, il y a en fait une réalité de fond. Quand vous demandez aux gens, moi autour de moi, je demande, ils me disent, est-ce que vous arrêtez de manger de la viande? Est-ce que vous limitez? Ils vous disent, mais en fait, comme ça coûte trop cher, j'en mange moins.
Oui.
Voilà. Donc,
les légumes coûtent cher aussi.
C'est vrai. Et donc les gens mangent mal fait, parce qu'il y a un certain nombre de fruits, légumes, effectivement, qui sont trop chers. Et donc, les gens mangent mal sur des produits ultra transformés, etc. Avec, quand même, faut le dire, c'est pas des sujets, on n'ergote pas sur le sexe des anges, les cancers du pancréas explosent. Voilà. Et sur des tranches d'âge qui sont plus simplement au-delà de 60 ans. Ça touche aussi des jeunes.
Ouais.
Voilà. Juliette Briens, est-ce que ça vous agace que l'État rentre aujourd'hui dans nos frigos et dans nos cuisines?
Vous savez que oui. Déjà, la notion de timing.
qui est vraiment insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne vous ont pas attendu pour manger moins de viande parce que ça coûte une blinde, en fait. Oui. Donc déjà, la consommation de viande, elle est déjà en baisse. Et oui, il y a une notion insupportable, surtout en ce moment, genre il y a rien qui va, quoi. L'école est une fabrique à analphabètes. Les mecs savent pas gérer un budget. L'hôpital c'est catastrophique. Et puis ils sont là, alors chauffez-vous à 19, buvez de l'eau mais pas trop, et qu'on éteigne la clim, gérez votre wifi. Mais à un moment donné, mais à quel moment on commence à se dire qu'on emmerde cet État soviétique, quoi. Voilà. Et maintenant les mecs sont dans nos assiettes.
Camarade Macron, il est light.
Stop. On n'a pas envie de savoir votre avis. On n'a pas envie d'avoir l'avis de l'État.
Ça fait deux ans qu'ils travaillent sur le texte.
Hein. Mais dis donc, deux ans pour répondre ça.
Pour se mettre d'accord sur le verbe entre limiter et réduire. Finalement, c'est limiter les lobbies de la viande ont gagné. Ce sera uniquement limiter et pas réduire
la
consommation.
On a payé donc deux ans
à s'écharper pour savoir s'il fallait utiliser limiter ou réduire. Déjà, c'est pour vous dire à quel point les mecs sont solides sur leurs appuis.
On comprend mieux la dette surtout.
Voilà. Donc déjà, apprenez à gérer un budget et combler le trou de la dette, et après vous viendrez nous donner des leçons sur ce qu'on doit mettre dans notre assiette, quoi.
Après, c'est quand même bien de dire aux Français,
les moyens d'acheter de la viande.
Et c'est quand même bien de dire aux Français que effectivement manger trop de viande, ça peut avoir des conséquences sur notre santé.
Mais comme elle le dit à toute la société,
comme elle le dit très justement, et c'est ce que je disais préalablement, les gens ils le savent d'eux-mêmes, ils le font eux-mêmes. Donc vraiment c'est une campagne, comment dire, inutile.
C'est un enfonçage de porte ouverte.
Son surmoi, il est pas soviétique. Son surmoi, il est du côté de Tchétchène.
Se battre sur Emmanuel Macron.
Ah non, mais moi, ça, je veux pas de Macron dans mon camp idéologique. C'est
clair. Oui, il est quand même loin du soviétisme.
Oui, c'est bien, c'est exactement ce que je viens de dire.
Alors, Julien est avec nous. Julien, il est très concerné par ce sujet parce qu'il est agriculteur, éleveur de volailles à Quimper dans le Finistère. Bonjour, Julien.
Bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous ne serez pas impacté, Julien, parce que a priori, le ministère de la Santé et de l'Agriculture, il vise plutôt la viande rouge. Mais est-ce que ça vous agace, vous, ce genre de directive ?
Alors, ça a fait plus que m'agacer, parce qu'il y a 3 ans, j'étais encore éleveur de bovins.
Ah d'accord.
Éleveur de bovins en race limousine, en label rouge. Donc très proche du bio, tout céréales de la ferme, tout à l'air, sans produits phytosanitaires sur mes pâtures. Sauf que avec ces discours qu'on a depuis 4-5 ans, j'ai dû malheureusement arrêter ma production parce que les prix ne bougent pas. Contrairement à ce qu'on voit dans les commerces, il y a 3 ans, moi, la viande à Belle Rouge partait à 6 euros du kilo de chez moi.
Ah oui, c'est parce qu'on paye chez le boucher. Hein.
Voilà, donc il y a tous les intermédiaires qui prennent leur marge. Actuellement, depuis un an et demi, le prix est mieux payé aux producteurs, mais ça risque de redescendre. Mais le souci, c'est qu'on nous parle de moins consommer, donc ça veut dire moins de production.
Ouais.
Certaines personnes parlent de monter en gamme. Donc l'erreur qui avait été faite justement il y a 3-4 ans, c'est qu'on est justement monté en gamme, donc on est arrivé trop cher pour le consommateur. Par rapport aux importations, et c'est là tout le problème. On retrouve dans nos étals du poulet polonais, même dans les collégiens. Je suis dans le Finistère, il y a 2 semaines, les collégiens avaient du poulet polonais à manger. Donc déjà, s'il y avait du poulet français, ce serait
mieux. Mais oui, alors que la Bretagne est une vraie terre agricole, en plus c'est scandaleux.
Sans élevage, pas de culture, parce que pas de fumier. Moi je suis également producteur de carottes, de petits pois, de haricots, d'épinards. Si je n'ai pas de fumier, je ne produis pas de culture.
C'est normal, oui.
Donc, c'est un cercle vicieux. Et ensuite, tout ce qui est emploi direct, indirect, les usines. Ici, dans le secteur, il y a des usines qui ont fermé. Parce que là, je parle de légumes. Mais en production animale également. Si vous en parlez à ma voisine, elle a été licenciée il y a 6 mois parce que son entreprise a fermé un entrepôt.
Mais quand même, Julien, à un moment, l'État, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il peut y avoir des conséquences sur notre santé si on mange trop de viande, notamment rouge. Et puis, il y a des conséquences sur la planète. On produit beaucoup de CO2, en fait, finalement, en élevant des bovins, des poulets, etc.
La France a l'agriculture la plus vertueuse du monde. La France est un pays où on interdit le plus les produits phytosanitaires, où on est le plus contrôlé. L'année dernière, rien que sur mon bâtiment de volaille, j'ai été contrôlé 3 fois.
D'accord.
Les cultures, je produis donc pour une coopérative qui fait notamment, qui livre après pour faire les typos Blédina, etc. Je suis contrôlé tous les ans, j'ai des audits là-dessus.
D'accord.
On a l'agriculture la plus vertueuse du monde. Et à côté de ça, on nous importe, comme là avec le Mercosur, des produits qui ne respectent pas leurs normes. Alors c'est là-bas qu'il faut aller voir. C'est ici, ça. Dans le secteur, sur ma commune, donc je suis à côté de Quimper, il y a eu 10 élevages en moins en 3 ans de bovins.
Oui, c'est ça. En fait, on sacrifie des élevages français et évidemment des éleveurs qui travaillent avec beaucoup de normes, beaucoup d'amour. Et c'est des, on va dire que c'est des élevages où les bêtes sont bien traitées, etc., au profit d'élevages où on ne sait absolument pas comment les bêtes sont traitées déjà, quelles sont les normes en vigueur. Et en fait, effectivement, on se retrouve avec nos enfants dans des régions qui sont pourtant des régions agricoles et qui mangent, comme le disait Julien, des poulets polonais, alors que vous avez des élevages de poulets français juste à côté. Merci beaucoup, Julien, en tout cas, d'avoir été avec nous et bon courage à vous. Des messages sur le WhatsApp, Charles.
Avec Bruno qui nous dit l'État devrait plutôt s'occuper de la dette du pays plutôt que savoir si j'ai acheté des entrecôtes hier, nous dit Bruno. Nico nous dit que le gouvernement ne s'inquiète pas pour la viande que je mets dans mon assiette, je n'en ai plus les moyens. Voilà ce que nous écrit Nico. C'est la même chose pour Christian. Je n'attends pas que l'État gère ce que je dois mettre dans mon assiette, j'attends qu'il se bouge les fesses pour qu'on puisse remplir nos assiettes. J'ai Michael qui nous dit limiter la consommation de viande est à mon sens complètement ridicule. J'ai l'impression de me faire traiter comme un enfant. Je n'en peux plus qu'on nous prenne pour des enfants et qu'on nous dise qu'on doit manger. Et puis surtout, ça va pas aider nos agriculteurs qui sont en pleine crise. Vrai. Sans parler du Mercosur. Et puis, bon, vous êtes beaucoup à réagir aussi au discours de Baptiste. Hein. Retourne manger des carottes râpées. Voilà ce que nous écrit Gabriel.
Toujours cette bienveillance, j'aime beaucoup. Toujours cette gentillesse.
Voilà, notre santé ne regarde pas l'État, nous écrit Greg. Chacun fait ce qu'il veut. Si on a envie de manger de la viande, c'est notre choix. Mathéo qui nous dit bientôt, ils vont nous dire combien de feuilles de papier toilette on a le droit d'utiliser.
Qu'on nous laisse. Ah bah ça, sur l'ADEME pour ça.
Oui. Franchement, je connais des gens dans mon entourage qui auraient besoin.
Ah bah certainement.
On vous tiendra informé, c'est promis.
On va prendre en ligne Sébastien qui nous appelle d'Inchy dans le Nord. Il est éleveur de vaches laitières. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tout le monde.
Est-ce que ça vous met en colère, cette directive de l'État qui veut limiter notre consommation de viande, Sébastien ?
Bah oui, évidemment, ça me met en colère, puisque moi, déjà, en tant qu'éleveur, je comprends pas leur truc. Et puis, comme j'entendais tout à l'heure, il y a quelques semaines, la ministre venait nous frotter, et puis notre président aussi, pour justement nous valoriser... Et puis bah là on nous plante un coup de couteau dans le dos en disant bah il faut limiter la viande. Alors déjà de base je voudrais savoir combien les Français consomment de viande, parce que je pense qu'on a déjà bien limité la consommation.
Non, on a monté en 2024, mais c'est essentiel. On a baissé en bœuf et en viande rouge, mais on a monté beaucoup en poulet et produits dérivés du poulet, les nuggets, les cordons bleus, tous ces trucs-là, quoi.
Ouais, tout ce qui est plutôt viande importée, en fait.
Voilà, exactement.
Ben, complètement.
Et c'est un peu ce que je disais à votre standardiste. En fait, c'est vraiment un peu de la schizophrénie au niveau français.
C'est d'hypocrisie.
Oui, voilà, totalement de l'hypocrisie, parce que on nous interdit de produire en France, mais les Français consomment, donc on va chercher ailleurs ce que nous on nous a interdit de faire avec des produits ou des façons de faire qui sont interdites chez nous depuis X années.
C'est ça.
Mais on se donne bonne conscience en disant on lave plus blanc que blanc, et puis derrière on importe entre guillemets, je vais pas dire de la merde, parce que
oui, un peu quand même.
Les producteurs étrangers font avec les moyens qu'ils ont. Mais nous, on nous retire alors que on est hyper contrôlé.
C'est ça, c'est une concurrence déloyale.
Exactement, ouais.
Merci Julien, merci Sébastien en tout cas d'avoir été avec nous. On entend la colère et le désarroi des éleveurs, de bovins ou de volailles qui nous ont appelés au 32-16. En tout cas, on vous a posé la question, l'État qui veut limiter notre consommation de viande, c'est nécessaire ou c'est ridicule ?
C'est ridicule, Estelle, à 89%.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.